Radio 1. Premier sur l'info. L'info locale.
On est mercredi matin, il est 7h30, c'est parti pour le journal. Benoît Duquet, bonjour.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. Dans ce journal, Pico raconte son emploi salarié au sein de la Confédération Atiaïmoa pendant sa période de privation de droits. Il se réjouit aussi de la victoire de Atiaïmoa aux élections professionnelles dans la fonction publique du pays. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui s'en prend une nouvelle fois à Oscar Temaru, on l'entendra dans un instant. Le rebondissement au procès Hermorea hier, un ancien pilote qui revient à la barre pour changer son témoignage. Et puis en fin de journal, deux événements qui approchent, le 18e Salon du Livre du 15 au 18 novembre à la Maison de la Culture avec des ateliers sur les langues. Et avant cela, dans une semaine, la Hawaiki Nui Va'a, le président de la Fédération Tahitienne de Va'a, voit Shell favori cette année.
Et c'est le retour de Pico à l'ouverture du congrès de la Confédération syndicale Atiaïmoa hier.
Oui, 11e congrès d'Atiaïmoa qui a commencé hier et qui se poursuit aujourd'hui à la mairie de Pirée. L'élection du secrétaire général a lieu ce matin à 10h. Jean-Marie Yantou Pico est le seul candidat, lui, qui a occupé ce mandat entre 2000 et 2014 et qui a été déchu en 2014 après sa condamnation dans l'affaire des emplois fictifs de la présidence. À l'ouverture, hier, Pico Yantou a expliqué sa candidature.
C'est pas moi qui ai décidé. Dans mon discours, je disais que ce sont les responsables syndicaux, les membres du comité directeur, c'est eux qui m'ont demandé, est-ce que tu veux continuer encore? Tu vas préparer l'équipe pour les 4 ans. Parce que là, c'est mon dernier mandat, 63 ans, 4 ans. Dès que l'équipe, tu l'as préparée, après tu t'en vas, l'équipe est là.
Et il est aussi revenu sur son emploi salarié au sein de la Confédération Atiaïmoa pendant sa période de privation des droits après l'affaire des emplois fictifs en 2014.
Je suis resté parce que j'étais fonctionnaire et quand j'ai vu que ça commençait à tomber, j'ai dit je ne peux pas partir comme ça parce que c'était tellement, on était tellement haut qu'on commençait à se casser la gueule. J'ai dit aux gars, est-ce que vous voulez, moi je veux rester pour redresser Atiaïmoa et avec vous. Mais il faut que je sois salarié, parce que j'ai été viré. Les gars, non plus, en tant que salarié, j'ai demandé le SMIC. SMIC, alors, dans la fonction publique, je gagnais bien, SMIC, mais comme j'ai ma retraite, ils m'ont dit, ok, eh ben, jusqu'en 2017, de 2014 en 2017, et après, ben, je suis redevenu secrétaire général, plus salarié.
Pico Yantou, hier au congrès d'Atiaïmoa, il doit être élu, pardon, secrétaire général. C'est ce matin à 10h.
Et puis on a appris hier que Atiaïmoa est désormais majoritaire dans la fonction publique.
Les élections professionnelles dans la fonction publique territoriale ont été remportées par Atiaïmoa le 10 octobre. Révolution annoncée fièrement par Jean-Marie Yantou à l'ouverture du congrès d'Atiaïmoa hier dans son discours. Puis au micro de Radio 1, Pico s'est réjoui d'avoir remporté les élections chez les fonctionnaires du pays.
Au niveau de la fonction publique du territoire, eh bien, on est passé la semaine dernière, on est arrivé le premier syndicat de la fonction publique territoriale avec 1189 voix et 64 représentants aux commissions et FO à 930, je ne sais plus combien, avec 34 sièges. Je pense que suite aux problèmes qui se sont passés dans leur syndicat, avec leur scission, la CSTP a perdu beaucoup de voix.
Voilà, la fonction publique territoriale était jusque la chasse gardée de la CSTPFO, mais qui est divisée désormais, et donc la CSTPFO a obtenu seulement 920 voix au lieu de 1633 aux précédentes élections, et 39 élus au lieu de 71 pour la CSTPFO. Enfin, la frappe de Jean-Paul Urima a récolté, elle, 673 voix et 32 élus.
Et puis la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, s'en est pris une nouvelle fois à Oscar Temaru.
Oscar Temaru qui avait annoncé une plainte contre la France pour crime contre l'humanité après les essais nucléaires. Nouvelle réaction de la ministre des Outre-mer. Oscar Temaru n'a pas de vraie vision pour la Polynésie. Propos de Annick Girardin hier sur France 24.
Je crois honnêtement que on dénigre la France dans ce cas-là. Monsieur, c'est ce que fait Monsieur Temaru.
Officiellement,
parce qu'il a pas
pardon,
de vrai...
c'est pour défendre les victimes qui n'ont pas été indemnisées.
Bien sûr, tout à fait. Mais parce qu'il n'a pas de vraie politique pour la Polynésie, une vraie vision de cette Polynésie. Il faut véritablement qu'on... si la plainte est étudiée, qu'on rétablisse les choses, qu'on fasse la lumière sur les attaques et qu'on montre que cet héritage, nous l'assumons. Cet héritage des essais nucléaires, le fait nucléaire, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, on l'assume totalement.
Annick Girardin, hier sur France 24.
EDT Engie a perdu son recours au Conseil d'État contre le pays.
L'entreprise contestait la loi de pays votée en mars dernier, loi qui autorise le pays à contrôler les sommes provisionnées par EDT Engie pour le renouvellement des ouvrages électriques. Le Conseil d'État a rejeté globalement le recours d'EDT Engie contre cette loi, sauf sur deux points qui concernent certaines modalités d'application de cette loi aux contrats en cours.
Et puis, rebondissement au procès. Air Moréa hier, un ancien pilote est revenu sur son témoignage.
L'ancien pilote d'Air Moréa, Fabrice Baudel, est revenu à la barre hier pour changer son témoignage de la semaine dernière. Il avait déclaré la semaine dernière à la barre qu'il ignorait les raisons du crash. Il a finalement estimé hier que Michel Santurain, le pilote décédé dans le crash, a eu un malaise. L'avocat de la défense, François Quinquis, a estimé après l'audience que les explications de Fabrice Baudel étaient d'une grande clarté.
Il nous a expliqué d'une façon parfaitement claire et rigoureuse le fait qu'il y a eu une action involontaire très certainement sur le manche pour que l'avion plane pendant 5 secondes puis après se mette dans un piqué prononcé.
Mais pourquoi il n'a pas tenu ce discours la semaine dernière alors même qu'il avait le rapport du BEA depuis plusieurs années
Il m'arrive également de faire des erreurs, des omissions lorsque j'étudie un dossier. Voilà. Et le tribunal
mais
également.
Mais là l'omission elle est énorme quand même.
Non, il voulait expliquer. Ce graphe était intégré dans une série de documents qu'il connaissait. Donc, il est passé à côté de ces documents, et y compris du graphe. Pour autant, lorsque l'on lui a montré, il a estimé qu'il fallait l'exploiter. Voilà. Et il n'avait pas été exploité comme il aurait dû l'être.
Un revirement que le procureur a qualifié à l'audience de malhonnêteté intellectuelle et la partie civile a considéré ce témoignage comme très orienté, favorable à la défense qui a fait citer Fabrice Baudel à la barre, maître Étienne Rosenthal, avocat des parties civiles.
Si on était en d'autres lieux, je vous dirais que je suis même amusé parce que des témoins, en général, quand ils disent quelque chose de sensé, c'est spontané, c'est pas plusieurs années après avoir ouvert un rapport du BEA qu'on a épluché, et comme par hasard, quand on revient à l'audience, on nous dit « Eh bien, je n'ai pas lu la bonne page ». J'ai oublié cette page. Non, c'est pas sérieux. Pour moi, c'est un témoignage qui est très orienté, mais qui n'a pas la valeur d'un témoignage, qui ne tient pas compte de la réalité et qui oublie un paramètre important, celui qui correspond à la scène qui a été vue par plusieurs témoins qui, eux, n'ont pas d'intérêt particulier à défendre et qui ont vu un avion en piqué, clairement. Donc, relancer aujourd'hui sur une thèse qui a déjà été exclue à la suite d'autres expertises n'a rien de sérieux.
Propos recueillis par Vaïté Oulari Pambrin au tribunal correctionnel où il reste 2 jours d'audience et on attend aujourd'hui notamment les réquisitions du procureur de la République José Torrel.
Le 18e salon du livre approche, ce sera du 15 au 18 novembre à la Maison de la Culture.
Sur le thème des langues avec les stands des éditeurs, principalement locaux, des conférences et puis des ateliers autour du Reo Maori. Les thèmes de ces ateliers, l'écriture poétique, l'utilisation de l'atlas linguistique de la Polynésie et un dernier atelier, la création littéraire en langue polynésienne. Lucille Bambridge, organisatrice du salon.
Le dernier atelier qui est a priori s'annonce comme être un atelier vraiment prenant et captivant va être mené en réo et en langue polynésienne puisqu'il s'adresse là aussi à des locuteurs qui maîtrisent au moins une langue polynésienne et plusieurs pourquoi pas, qui va être réalisé donc sur 3 jours dès le premier jour d'ouverture du salon. Donc ce sont des sessions de 3 heures chaque jour, donc il faut évidemment s'inscrire au préalable, il faut avoir le temps et il faut être conscient de ce qu'implique cet exercice d'écriture puisque derrière il sera récompensé par non seulement des lectures sur le PEPL le dimanche, dernier jour du salon, mais aussi la perspective d'en faire une production éditée localement.
Alors pour s'inscrire, envoyez donc un mail à lireenpolynésie@mail.pf ou vous appelez le 89 40 77 73. Le salon du livre, c'est du 15 au 18 novembre à la Maison de la Culture.
Et pour finir, la Waikinui va, c'est dans une semaine.
140 équipages inscrits, toutes catégories confondues. Il y a des équipages étrangers qui viennent notamment du Brésil, de Hawaï, de Rapa Nui, de France. Alors qui sont les favoris cette année? Pronostic de Rodolphe Apuari, président de la Fédération Tahitienne de Var.
C'est Shell qui a commencé l'année et puis je pense qu'il va aller jusqu'au bout. Moi, pour moi, c'est Shell aujourd'hui. Parce qu'ils ont une nouvelle équipe Il y a des jeunes, enfin des jeunes champions aussi, parce qu'ils ont recruté cette jeunesse, mais qui viennent des équipes où aujourd'hui sont très bien préparées. Après, nous avons au moins une dizaine d'équipes qui pourront aussi prétendre à cette première place. Mais sur la préparation, par exemple, de l'équipage, je pense qu'ils sont très prêts. Par contre, au niveau du matériel ou pendant la course, parce que nous avons aussi le souci des caps, hein, puisqu'il faut quitter Houéné vers Rayater, et nous avons le choix sur trois caps, tout droit vers l'extérieur de Taha ou vers le marais de Tapu. Donc voilà à peu près les trois caps. Et puis celui qui a la chance d'avoir le courant par l'arrière arrivera plus tôt.
Et la traditionnelle cérémonie d'ouverture de la Hawaii Kenuiva'a est prévue mardi prochain, 30 octobre, à 16h à Fare à Huahine. Ces deux derniers sujets étaient préparés par Valentine Bluet.